Engel.
Excuse-moi, j'ai un appel.
En mode avion, avec Fred Testo.
Donc je vous dis juste comme ça, c'est fait. Aujourd'hui, on se retrouve en mode avion. Donc avec Fred Testo, hein, c'est moi-même. Donc déjà, je suis un peu content quand même. Je suis donc en mode avion avec Stéphane Wojtowicz, Alika Del Sol, des jeunes comédiens dans le vent, voilà, avec qui j'ai eu la chance de travailler en plus. Et aujourd'hui, on va parler de ce métier, hein, d'acteur, comédien, comédienne, actrice, ou pas du tout. En fait, on fait ce qu'on veut. Oui, l'idée, c'est d'une petite conversation entre gens.
À bâton rompu.
En plus, nous, on se connaît un peu, donc ça peut être marrant, parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. On a appris que Stéphane a arrêté de boire, de fumer et de jouer au Molki. Parce que c'est un grand joueur de Molki. C'est lui qui a introduit le Molki en Europe, hein, on peut le dire. Voilà. Nous sommes chez Huguette, avec le patron Olivier. Et on est dans le 6e à Paris. Hein. Et là, on voit les professionnels, on fait genre, on ne sait pas qu'on est photographié, alors qu'on le sait très bien. On a continué de parler naturellement.
S'il te plaît, tu peux refaire une photo de moi avec le.
Avec un verre d'eau.
Avec un verre d'eau, s'il te plaît.
Ah, oui.
C'est pour ma
personne
fan zone.
N'y
croira. Oui, s'il te plaît. Merci, c'est cool.
Et je me souviens d'une de tes phrases aussi assez marrante sur les. Sur le métier de comédien, où tu disais souvent eh ben alors Stéphane, ça va quand tu l'as pas vu depuis longtemps, tu vois. Il dit ah ben moi ça va, putain, cette année j'ai pas arrêté, hein. J'ai fait 40 films, 40 jours de tournage. Magnifique cette vanne.
40 films par an, 40 jours de tournage.
Et en même temps,
dans
40
quel
jours.
Film n'ai-je pas tourné? C'était un quiz.
Ouais, ouais, c'est vrai.
C'est, Berléand avait les rôles importants, mais lui aussi était sur le quiz. Il y a une époque où Berléand disait dans quel film n'a pas tourné Berléand? Dans
c'est
quel
vrai,
film ouais. français Berléand n'est pas?
Et combien de fois t'es mort?
Très peu.
Très peu de fois.
Une fois scalpé.
Parce que c'est ça qui est drôle.
Et comment?
J'allais dire et comment?
Une fois scalpé. Et fini au flingue par terre. C'était une gore.
Une fois scalpé.
Scalpé
achevé.
Et achevé au flingue. Horrible. Ouais. Alors, vous allez dire que scalpé, j'avais des faux cheveux. Ouais. Parce que pour me scalper, là, c'est quand même pas évident, quoi. Non, je meurs pas. T'es mort, toi, souvent, toi?
Moi, je suis mort poignardé dans une cuisine par ma femme.
Et, je me souviens de ça, ouais.
Poignardé, et puis un petit coup de chevrotine en Corse l'année dernière, là. Je me suis fait à bout portant. Donc, t'imagines, un beau trou. Non, sinon, quand même, ouais, je crois au moins une troisième fois, je sais plus comment. Assez rigolo, assez sympa, le truc. C'est ça qui est marrant, quoi.
Mais oui. Moi, je suis morte qu'une fois, la première fois, là, l'année dernière, avec un beau trou de balle dans la tête.
Ah ouais, c'est chouette.
Là,
j'ai baigné dans le sang de Robinson Stévenin aussi, dans la série La Mante, où justement, j'arrive trop tard, et il vient de se faire bousiller, torturer.
Ah ça, j'en ai
c'est
eu
sympa,
du sang. Dans Engrenage, j'en ai eu un mort.
Ouais.
C'était Mehdi Debbou qui devait se faire buter par son frère dans la cellule, de garde à vue. Et c'était les Spallacini, tu connais, c'est des mecs qui travaillent des effets spéciaux
Très
en
bon.
France, à l'étranger,
très bon.
Grosses pointures. Et là, ça giclait le sang, il avait son artère, sa jugulaire, ils lui avaient fait un effet spécial qui pissait comme ça, et ça pissait sur le mur, et les mecs, ils étaient dans le coin avec la pompe, ils faisaient comme ça, c'était incroyable.
Alors, est-ce qu'on prendrait un peu de gambas, un peu de calamar, un petit saumon? On va tout prendre à partager, en fait.
D'accord.
Et peut-être ça, les petites dim sum crevettes. Ouais. Très bien, mais on fait ça. Ça me faisait penser à un truc, ce que tu as dit tout à l'heure, parce que c'est ça qui est marrant dans notre boulot. Moi, je me souviens dans Gardien de l'Ordre, par exemple, on a dit, la première fois, donc tu mets des boules caisses parce qu'on va mettre des pleines charges dans le pistolet avec balle à blanc, mais ça fait quand même une flamme comme ça, enfin, vous
c'est
le savez.
Énorme.
Et il y a un mec donc qui vient enquêter et il rentre dans l'appart. Toi t'es là, mais il va vouloir te buter et c'est toi qui le tue. Mais tu commences de dos. Et au final, c'est la première fois que je faisais ça. J'avais tellement beaucoup moins d'auditions donc et je sais qu'il arrive, qu'il va être de mon dos, qu'il va me tirer dessus, que je vais le tirer et que je vais le buter dans la chambre. Et en fait, avec du sang partout et j'étais complètement stressé en vrai en fait là. C'est-à-dire que tu joues même pas le mec stressé. C'est-à-dire que moi là, c'était mon premier rôle sérieux. Et j'étais vraiment stressé, parce qu'en plus, tu sais qu'il y a un mec qui arrive derrière, le fait de te vouloir tirer en premier, même si tu sais que tout est joué, tout est écrit, t'as quand même... Et tu te dis, je rentre chez moi à 3h du matin, je me souviens, sur mon scooter à Opéra, et tu te dis, c'est la première fois où t'as un peu les... Ça te perturbe quand même. Tu vois, quand tu l'as gardé pas l'habitude.
Longtemps, la carte de police.
Et j'ai gardé longtemps encore cette carte de police. Ouais, mais moi, je crois que je dois avoir les trucs dans une boîte.
Je l'ai retrouvé dans les accessoires. On avait fait des cartes de flics. Ah,
et ouais, c'est ouais. Le flingue aussi. Hein, moi, ça m'est arrivé, ça m'avait vachement angoissé en fait. On me tirait dessus. Et ça fait un truc, même si tu sais que t'as vérifié 10 fois, machin.
Bien sûr.
Mais c'est hyper angoissant.
De toute façon, une arme pointée, c'est extrêmement...
Alors qu'on joue violent, à ça, gamin, machin,
on est tellement proche là, de la réalité.
Tu te dis, waouh, ça fait très peur.
Et alors, c'est marrant parce que la mort au cinéma, à la télé, ça marche très, très bien. Au théâtre, c'est...
Ça marche pas.
C'est consternant.
C'est bien, ouais, c'est vrai.
C'est-à-dire que le mec qui meurt au théâtre, on n'y croit pas.
Non.
Un mec qui meurt à l'image, ça marche à fond, il y a des morts tout le temps. À l'image, il y a des morts en permanence. On est complètement dedans. Au théâtre, c'est très bizarre. On sait que le mec va se relever après.
Ouais. Pour saluer.
Pour saluer à la fin, après être à pointe. Donc, c'est fini. Et d'ailleurs, ça fait très longtemps que les mecs le savent. Parce que même Racine, dans les tragédies, tout ça, quand il y avait la mort de quelqu'un, ils en parlaient. De la personne qui était morte, elle est morte comme ci, comme ça, sur le bûcher, tralala. On ne voyait pas les gens.
C'est vrai, ils en parlaient toujours. Ouais.
On parle de la mort de la personne, mais en direct, il n'y avait pas.
C'est vrai.
Ouais, parce que toi, tu fais les deux, tu fais beaucoup de théâtre. C'est quand même intéressant d'avoir le double regard.
C'est comme on dit.
Et d'ailleurs, alors, tiens, c'est ça la question, là. Tu te souviens, c'était Delon qui disait ça. Alors, moi, je ne suis pas comédien, je suis un acteur. La différence entre un comédien et un acteur. C'est marrant, ça, quand même, comme.
Mais moi,
il y a quand même une différence dans le côté où le théâtre, c'est vraiment sur le moment, c'est sur le vif. Tu vas faire 1h30, 2h, 3h, c'est ce soir, et puis voilà. Et après, on passe à autre chose.
Ouais.
Tu refais pas une scène.
Non, c'est vrai.
Mais c'est pas la même chose. Après,
c'est one shot.
Toi, t'es le seul à cette table. Toi, t'en as fait aussi un peu du théâtre.
Moi, j'ai commencé au théâtre.
Toi, t'as commencé au théâtre.
Et Fred, il en a fait...
On avait fait un singe en hiver, ensemble, avec Eddie Mitchell.
Il avait fait un boulot.
Bah, ce qui est drôle, c'est qu'on avait joué au Théâtre de Paris. C'est vrai qu'on avait beaucoup bossé. Moi, c'était sans représentation, je crois. Mais c'est vrai que je n'avais pas vraiment stressé, tellement on était bien entouré, tellement on avait bossé, quoi, trouvé le truc.
Oui, c'était très familial. Je me souviens d'Eddie, il adorait l'avant et l'après. Le pendant le faisait légèrement chier. Mais alors, l'avant, il venait très tôt. Tôt au théâtre. Il arrivait vers 7h et il attendait les copains pour dire des conneries, boire un coup. Ouais.
C'est maison.
C'était son moment favori entre 7h et 8h30. Il était content. Puis après le spectacle.
Mais tu vois, finalement, moi, je trouve que c'est avec le recul plus difficile. Alors qu'on aurait tendance à penser que le théâtre est plus difficile parce que tu es devant le public et tout. Et je trouve ça finalement plus facile parce que tu répètes et après tu suis ton truc pendant 1h30.
Bah ouais.
Alors que télé ou cinéma, tu vas jouer un jour une scène qui se passe à la fin du film. Il n'y a pas de continuité. Et c'est beaucoup plus dur parce que tu dois te retrouver dans l'état au bon moment, mais sauf que tu vas jouer une scène qui se passe à la fin, puis une au milieu, puis c'est décousu. Alors qu'au théâtre,
t'es
dans la continuité. Donc je trouve ça finalement plus difficile.
Et quand t'arrives au premier jour de répétition, tout le monde fouette un peu, etc. On n'est pas très bon, on patauge, on est un peu mauvais. Mais c'est pas grave, on a 5, 6, 7, 8 semaines pour être prêt.
Ouais.
Donc on est ensemble, pas bon, pas très bon, on foire, on merde, etc. Au Cinoche, on arrive au premier jour, faut être prêt.
Ouais. Puis il n'y a plus le temps maintenant.
Et on répète pas,
à part
certains films où on a des séances... Avant le tournage, mais c'est
bien plus rare.
Donc, il faut arriver prêt. Faut gérer la pression et le trac. Parce que les premiers jours de tournage, pour tous les comédiens, c'est dur.
Ouais. C'est chaud, ouais. Ça, c'est un vrai truc.
Il ne faut pas qu'on me raconte d'histoire. Tout le monde est dans le même truc. Et moi, qui ai fait beaucoup de premiers et derniers jours...
Ouais.
C'est mon premier, mon dernier jour. Eh bien, les petits rôles, c'est super dur.
Mais il n'y a rien de pire.
Parce que tu viens, tu fais ton truc, tu viens faire ta scène,
tout
tu te casses.
On se connaît, ça fait 3 semaines que tu tournes ensemble.
T'arrives dans une équipe hyper constituée.
Ouais. C'est vrai que c'est pour ça qu'il faut faire bien attention.
Et souvent,
aux gens.
Moi, je les accueille quand j'ai un rôle important. Ouais. Quand je vois un mec venir faire une scène dans un film, je fais super gaffe parce que je sais
c'était hyper
je
dur.
Sais ce que c'est que la difficulté de se retrouver là.
Ben moi, j'ai un réal qui m'a dit ça l'année dernière. Il me dit, ah, tu devrais aller parler au mec avec qui joue ton père, là, pour, qui joue le beau-père. Tu fais une scène. Et je dis, ben, c'est marrant parce que c'est exactement ce que j'ai été faire tout à l'heure. Ouais. Parce que c'est horrible de venir faire ta scène. En plus, c'était un truc où lui devait être... moi, je l'écoutais. Mais lui, il avait de l'émotion et tu vois.
Il avait une tartine en plus de texte.
Ouais. Voilà. Et en plus, oui, moi, j'avais qu'un ou deux mots de relance. Et ta double pression, c'est qu'en plus, il ne faut pas que je lui plante sa réplique. Où le mec, il est émouvant à ce moment-là. Et toi, tu lui dis, ça va aller ou je suis désolé. Et il continue derrière. Et si, imagine, tu te fourches. Ça, c'est le pire truc. Toi, et tu niques la réplique de l'autre. Donc ça, c'est aussi une double pression. Il faut prendre soin les uns des autres. Et ça me ramène à un truc qui n'a rien à voir, mais ça me fait penser aux figurants. Que nous, en tant que comédiens, comédiennes...
C'est un de mes plus grands fous rires de Sinoche avec Fred. Oh mon Dieu. Elle est difficile à raconter, l'histoire.
T'aimes bien le bruit, là, des...
Ah oui, oui.
Ouais. Attends, Stéphane va attendre. Chauffage, évidemment, à la bioéthanol, là. Merci Olivier de chez Huguette, rue de Seine, à Paris 6e. On continue donc la discussion. Et donc ça nous ramène évidemment à ce qu'on disait tout à l'heure, les figurants. Parce que là, il faut en parler. Parce que là, j'ai déjà au moins 3 ou 4 anecdotes figurants, des gens qui font partie intégrante d'un tournage, mais qui sont des fois, soit parce que les réalisateurs ou les réalisatrices bossent trop et les premiers assistants, deuxième assistant, troisième assistant ne se sont pas occupés, ou le mec qui fait le casting n'ont pas eu le temps, bref. Un tournage, c'est très compliqué à gérer. C'est un paquebot à pleine vitesse et on n'a plus le temps de s'arrêter, quoi. Sauf si on coule.
Mais il y a des figurants et il y a des figurants professionnels. Hein.
Il y a des figurants, voilà. Très bien. Alors allez-y, balancez les anecdotes. Oui.
Alors, parfois, on est un petit peu... on est en difficulté avec des figurants. Il y en a qui sont super, il y en a vraiment qui sont cool, ils connaissent bien le job, ils foutent la paix à tout le monde, ils font le taf. Et puis, il y en a qui sont un petit peu, surprésents.
Oui.
Et celui qui dit, putain, j'aimerais bien avoir du texte. Oui. Ah. Et pourtant, on ne m'en a pas donné.
On les connaît bien.
Et nous voilà à table, dans une cafétéria, avec Fred, face à face, en train de bouffer du riz.
Oui.
Et donc, on n'en pouvait plus. On a arrêté le tournage à midi, cette scène-là. On avait 3 kilos de riz dans le ventre, on n'en pouvait plus.
Et nous, on n'avait pas de texte en plus.
On n'avait pas de texte.
C'était le premier plan.
C'était un plan séquence. Les gens passaient et puis après, la caméra s'en allait loin au fond de la cafette sur une autre scène avec quelqu'un. Et il y avait quelqu'un qui passait et un figurant qui passait qui me disait systématiquement très fort « Bonjour Gilbert ». Gilbert, c'était le nom de mon personnage. Et puis à un moment, l'ingénieur du son pour une prise demande aux gens de ne pas parler.
Ouais.
Parce que ça brouillait, bref. Donc, vous faites la même chose, tout le monde, mais en muet. Donc, tout le monde entend, qui est très bien. Et le figurant, on tourne, moteur action, le figurant change de place, se rapproche de moi très très près et me chuchote dans l'oreille en passant, « Bonjour Gilbert ».
Il n'a rien compris.
Il n'avait pas très bien compris la consigne. Et à partir de là, on est parti en fou rire avec Fred.
Il y a eu 15 prises. Et nous,
toutes les prises. On est en fou rire. Et à un moment, il arrivait dans mon dos, Fred, rien que le fait de voir ses pieds au loin arriver, partait en fou rire, il pleurait. Et on n'en a jamais fait une de bonne. Et Dieu merci, comme la caméra s'est éloignée, on ne voyait pas trop. Et dans à l'image, montée dans le film, on voit, si on est attentif, on nous voit, et on nous voit en train de les épaules qui bougent,
ouais, c'est horrible.
On octait. Fred pleurait, mais vraiment des larmes. Et
lui, systématiquement, te disait « Bonjour Gilbert ».
Oui, il recommençait jusqu'au moment où on lui a dit « Non, faut pas le faire, tu passes, tu fais rien ». Bon, d'accord. Mais après, il suffisait de le voir arriver. Il suffisait de le voir arriver, bon, ça déclenche le fou rire, c'était horrible, horrible.
Dans Gardien de l'Ordre, Nicolas Boukrieff, la scène de la cantine.
C'est un super mec, Nicolas.
Commissariat.
Nicolas Boukrieff, très bon cinéaste et des sujets assez punch.
Ouais, Nicolas qui a 1000 anecdotes.
Ah ouais, mais...
incroyable.
Un de ses premiers longs métrages, Le Convoyeur, avec Dupontel.
Le Convoyeur, ouais.
Dupontel ne voulait pas de Jean Dujardin. Sinon, c'est un acteur de télé. C'est drôle après l'histoire, comment ça tout se remet en place. Il dit non, on va pas tourner avec un acteur de télé, t'as pas un mec
un peu mieux.
Parce que Dujardin, il n'avait fait qu'un gars et une fille. Ouais.
D'ailleurs, pour rebondir sur les figurants, j'ai fait un film qui s'appelait Le Grand Méchant Loup de Nicolas et Bruno, avec Poulvord, des Cadmerades, Léa Drucker, Valérie Donzelli, Zabou, etc.
Je me souviens de ce film très bien.
Et pareil, on a une scène où dans l'histoire où Marie-Christine Barrault joue notre mère et elle est à l'hôpital, c'est chaud, le médecin nous appelle en urgence et donc c'est les trois frères. On se retrouve à l'hôpital et il y a un plan et il y a deux brancardiers, donc figurants, qui n'ont pas de texte, hein, parce qu'il faut rappeler ça aussi. C'est que,
le
pareil,
figurant, donc, par principe, figurant n'a pas de texte.
À la base, il n'a pas de texte. Hein, donc, parce qu'il a été mal coaché, on ne l'a pas dit, ou on est trop pressé, d'un coup les gens s'inventent une phrase pour s'aider.
Ouais.
Des fois on leur donne des choses,
oui,
mais, ou un mouvement, ou ouais. Bref, on leur dit de penser à un truc dans la tête, mais là en l'occurrence, rien. Et la scène, c'était que nous on est assis à l'hôpital, on vient d'arriver en catastrophe, on nous annonce que notre mère va pas bien, et il y a deux brancardiers qui amènent un brancard avec quelqu'un sous le plastique. Donc t'imagines un Maccabée. Et donc nous on se dit, oh putain. Dans la tête des personnages, ils disent « Oh merde,
c'est notre mère. »
C'est notre mère. Donc on est un peu, tu vois, stressé on se rend compte au final que c'est pas ça, mais c'est juste l'effet désiré par les réalisateurs. Sauf que quand on tourne cette scène, il y a les deux figurants et deux brancardiers, il y en a un qui dit rien, et donc à action, le mec arrive, et je sais pas pourquoi, il sort un téléphone et il dit « Bon, pour justifier leur départ, parce qu'ils devaient laisser le brancard comme ça avec le cadavre sous plastique. » Et il dit, ah, je viens d'être bippé, on nous appelle, il faut qu'on aille à la cafétéria. Et un truc, mais bon,
pas posé.
Alors t'imagines bien qu'on commence à rigoler, en disant, mais merde, c'est pas possible.
C'était une initiative.
Non, mais comme
il
personne. Mais oui, c'était dire un truc, lui, pour justifier son départ. Alors qu'en fait, comme on leur avait pas expliqué le truc, des fois, c'est ça ce qui arrive, c'est qu'on n'explique pas assez les choses.
Les figurants, ouais.
Non, mais au final. Alors,
le tartare de cou. Non, il y en a qui sont terribles. Moi, j'ai eu ça, pareil, une scène. Grosse scène d'émotion. Tu vois. J'apprends la mort de mon père, c'est en larmes, machin et tout. Et donc, on avait répété, puis il m'a dit, bon, on en fera une, tu vois. Parce que c'était vraiment, c'était
oui,
long.
C'était chargé en émotion, bon, donc on n'en fait pas 50. Voilà.
Et pareil, en fond, passaient deux mecs, mais qui faisaient rien, qui passaient. Et il passait pendant toute la scène comme ça près de moi et jusqu'à sortir. Donc je fais mon truc, t'es à fond dans l'émotion et tout. Ça dure. Et le mec s'arrête en plein milieu, dit non, on va arrêter parce que j'étais pas bon là.
Ah oui.
Les mecs passent, c'est tout, ils passent. Il dit non, j'étais pas bon là.
Il s'est coupé le truc direct. C'est pas possible.
Ce que jamais un acteur ne fait. Ça fait partie des lois et des règles. C'est le réalisateur qui coupe. Même si on se viande et qu'on fait n'importe quoi, on continue.
C'est le réalisateur qui dit.
C'est le réalisateur, mais jamais un acteur dit « Non, coupez !»
Non, quand je marchais, le monde hallucine. Non, mais quand je marchais, je sentais que c'était pas naturel.
Pour moi.
Je peux te dire que nous, dans cette scène d'hôpital, ils l'ont fait 10 fois comme ça, doit être bipé à la cafétéria, jusqu'à ce que, finalement, comme c'était pas une scène où nous, on avait le dialogue, les réalisateurs, dans leur tête, allaient mettre une musique. Donc, il faisait pas gaffe aux figurants. Sauf que nous, plus il le faisait, plus on était crevés de rire.
Terrible.
Jusqu'au moment où il lui dit non, il faut plus le dire, il faut plus le dire. On dit mais non, mais on n'y arrive pas, nous, c'est tellement drôle. Et je viens d'être bippé, il faut que nous allions à la cafétéria tout de suite. Et il le faisait comme ça en plus. Et jusqu'à tel point, ils lui ont dit bah non, ne dis rien. Les réalisateurs ont dit ne dis rien. Et au final, rien que le bruit du cliquetis du brancard, comme nous.
Voilà, pareil.
Bah, c'était terminé. Pareil. Du coup, on a arrêté le tournage pendant 30 minutes.
Oh putain.
30 minutes parce que fou rire, impossible de se reconcentrer. Donc heureusement, c'était Nicolas et Bruno sont des réalisateurs exceptionnels, donc ils aiment aussi beaucoup rire. Donc vaut mieux arrêter des fois.
Perdre 30 minutes sur une journée de tournage, c'est très grave. Ça coûte beaucoup d'argent.
Ouais.
Mais voilà. Tout ça pour une histoire de figurant.
Mais Dieu merci, il y en a quand même qui sont vraiment cool.
Ah, il y en a qui sont magnifiques.
Et moi, j'aime bien parfois tourner en province, parce que souvent, ils vont chercher comme ça, ici ou là, des gens dans la... Et alors, c'est marrant parce qu'ils sont très, très réservés. Ils font exactement ce qu'on leur dit de faire. Et ils découvrent, en fait, le monde de pourquoi, comment on tourne.
Et ils sont souvent très bien.
Mais c'est très long. Ah bon, vous la refaites encore ?
Ouais, et souvent on dit ah bah bon courage, franchement bravo, hein, parce que tenir comme ça toute une journée, et tu te dis c'est vrai, comme nous c'est notre boulot, on n'y pense pas, mais pour les gens refaire 50 fois une prise, ouais, ça paraît fou.
Changer d'axe, on fait la scène parce qu'on change de plan, etc. Ah mon Dieu,
ouais. Ouais, faut être
mais
courageux.
Mais toute la journée vous allez faire la même scène, bah ouais. Ouais.
Bah ouais. Bah, des fois c'est justifié, hein. Des fois non. Est-ce que ça vous est arrivé ? Moi, j'imagine que jamais, mais...
Bien sûr.
Mais d'arriver sur un tournage, et donc ton partenaire ou ta partenaire, ou... et on n'a pas d'affinité avec la personne.
Ça démarre pas génial, quoi. C'est souvent au maquillage, on se croise au maquillage, on se fait déjà, « Oh putain, voilà. Ça va être dur la journée !» Ouh la
oui,
vache.
Parce que c'est marrant, ça, ce que tu dis, Stéphane, parce qu'il faut le préciser pour les gens qui nous écoutent, que le HMC, donc habillage, maquillage, coiffure, tous les matins, on se retrouve là, et c'est un peu le petit espace un peu hors du temps,
bah ouais,
voilà, où déjà, c'est un métier où on arrive habillé, on déshabille, on s'habille avec notre costume.
Parfois, il est très tôt le matin.
Il est très tôt, et tout le monde, c'est là un peu où on jauge avec qui on va travailler ou pas, surtout quand il y a des gens que tu n'as pas rencontrés,
que
tu ne connais pas. Et c'est là qu'on voit un peu les comportements.
Oui, c'est assez marrant.
On voit qui est exaspéré parce qu'on parle un peu fort le matin en disant « Alors, ça va tout le monde ? Un petit café, coucou tout le monde, bisous, bisous ouais. !» Et là, on voit qui réagit bien ou pas.
C'est passionnant. Moi, j'adore cet endroit. J'ai écrit une petite série qui s'appelle HMC.
Ah ouais ?
Parce que je trouve ça un endroit magnifique.
Mais d'ailleurs, les gens qui bossent, donc les habilleurs, maquilleurs, coiffeurs, qui sont hommes et femmes.
Merci Olivier hein. Chez Huguette dans le 6e.
On les appelle aussi Noce, les premières lignes.
N'oubliez pas de réserver, que la terrasse est tellement grande que tout le monde vient.
On les appelle les premières lignes, ces postes-là, parce que c'est vraiment eux qui se chopent les comédiens en premier. Quoi.
Oui.
Donc toutes les humeurs sont les réceptacles des bonnes et des mauvaises humeurs, des exaspérations.
Et
parce
c'est
que
le lieu
parfois
des confidences.
Exactement. Ouais. La comédienne ou le comédien va dire à la coiffeuse ou au maquilleur, « Ouais, alors là, celle-là, je ne peux pas la saquer. » Et l'autre, elle se la chope 10 minutes après.
Ouais.
C'est le lieu des confidences, souvent.
Le SAMU social, ouais. Des tournages.
Les conflits qu'il peut y avoir entre comédiens et réalisateurs. Moi, j'ai vu parfois des gens se lâchaient vraiment contre le réalisateur, ouais. Qui est très gêné. T'as pas envie d'être là à ce moment-là, t'as pas envie d'entendre ça. Et eux, ils se chopent ça. C'est dur, hein. C'est dur. Il faut avoir un peu de psychologie pour assurer ce boulot au-delà des qualités artistiques qu'on demande, mais c'est des jobs.
Bah pareil, quand t'as quelqu'un avec qui tu dois faire une scène ou machin et que t'as pas d'affinité. C'est assez bizarre parce que, à la différence.
Ouais,
non, mais.
Donne-nous des.
Non, mais au-delà de ça, non, parce qu'en fait, je voulais juste rebondir sur le. Je me disais, des gens, t'es dans un bureau, t'as pas d'affinité avec machin ou machine,
qui est
au juridique, qui est en face de toi, bon, tu peux l'ignorer à la machine à café. Nous, quand, là, dans notre métier, nous, on peut peut-être avoir une scène où les mecs sont. Bah oui. Sont soit amis, soit voisins,
soit
amants. Ouais.
Amants, génial.
Et tu te dis, putain, qu'est-ce que tu vas faire
avec la comédienne, un mec que tu détestes. La saquer. Ah, c'est l'horreur.
C'est ouf, quand même.
Affreux, tu dois jouer l'amour à quelqu'un que tu détestes. Ouais.
Non, c'était pour justifier que des gens deviennent fous dans notre métier. Donc, voilà. Vous disiez, c'est une des justifications. Tu vois, il n'y a pas que l'argent, le pouvoir, il y a aussi le fait d'avoir un rôle avec quelqu'un qui t'aime pas.
Et le problème, c'est qu'il y avait un vrai terrain. Ils étaient déjà un peu fous avant.
Oui.
Alors, pour vouloir faire ça...
Ça a augmenté le...
Il y a déjà un gros déséquilibre, quand
oui,
même.
Oui, c'est clair. Hein. Il y a une forme de
déséquilibre.
Pourquoi
est-ce qu'on veut absolument ce regard plus que les autres?
Oui. Alors après, j'ai une théorie là-dessus.
Cette attention, il y a un déséquilibre. C'est qu'il y a à la base, un regard qui a manqué. Pour vouloir être dans la lumière comme ça et être regardé.
Oui, c'est antinaturel, c'est exhibitionniste.
Je pense qu'il y a... C'est parce qu'à un moment, il y a un regard qui a manqué.
Quand tu veux devenir comédien ?
Ouais, je pense. Ouais.
Ouais, mais...
Après, ça peut être pour plein d'autres raisons, mais je pense qu'à la base, il y a un truc comme ça, quand même.
Bien sûr.
D'un manque d'attention, d'un manque...
En tout cas, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé.
Ouais.
Il y a un truc qui a merdé à un moment.
Ouais, mais ça peut être juste aussi en vouloir fanfaronner, tu vois.
Bien sûr,
je crois que ça vient forcément d'un problème.
Si tu veux fanfaronner, Mais même dans la vie, les, tu vois bien à l'école les gamins qui veulent toujours être fanfaronnés et tout, c'est que chez eux, il y a un truc qui va pas bien, quoi. Quand même. Il y a un manque, il y a quelque chose qui fait que tu deviens complètement extraverti, que tu as envie de faire rire tes copains, que, tu vois.
On est tous tombés sur des comédiens ou des comédiennes, c'est lunettes noires, je te parle pas, et donc je viens faire ma scène, et après je suis pas là. Hein.
Oui.
Donc ça c'est autre chose aussi, bien parce sûr. Que nous on est là à la cantine, on rigole, on partage aussi. La colonie de vacances, on a envie de tous de se marrer ensemble, ça peut aussi être ça. Et juste après, que nous, ça, on a envie de raconter des histoires.
Ça se manifeste différemment, mais à la base, je pense qu'il y a un truc quand même qui...
C'est-à-dire que chez Fred, il s'en est pas rendu compte, parce que lui, ça a commencé dès le tout jeune âge. Et la première fois que j'ai vu Fred, je me suis dit, putain, lui, j'aurais pas voulu être en classe avec lui. J'aurais pas travaillé. J'aurais fait que le regarder et le regarder faire le pitre. Je pense que ça a commencé dès la maternelle, quoi. Donc, en fait, tu t'es pas rendu compte du changement, quoi.
Oui, non, parce que je veux dire,
t'as toujours été de l'autre côté. Donc, tu sais pas.
Il n'y a pas eu
un moment où t'es devenu, puisque t'étais déjà.
Non, mais je suis d'accord. Mais c'est vrai que j'ai pas eu le sentiment d'avoir, du coup, moi, pour le coup, souffert ou d'avoir une enfance difficile, pas du tout. Ou d'avoir des problèmes avec mes parents.
C'est forcément difficile, hein.
Ou de pas être, de galérer avec les meufs ou pour d'autres avec les mecs. Mais. J'ai pas eu l'impression de galérer pour aller en boîte de nuit, d'avoir des différences entre riches et pauvres, alors que moi, j'avais pas spécialement d'oseille. Mes parents, tu vois, étaient modestes. J'ai pas eu le. Donc, j'ai pas de revanche à prendre en faisant ce métier. C'est ça que je veux dire. Après, des fois, c'est plus dur que d'autres, hein, évidemment. Hein, tu vois, parce qu'il faut aller gagner sa croûte, etc. Tu vois, j'ai connu en plus deux époques. Moi, j'ai connu Canal où tu as ton salaire qui tombe tous les mois pendant des années. T'es moins stressé que quand il faut attendre le boulot, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas pareil. Moi, je dis d'ailleurs que je commençais à être comédien quand j'ai arrêté Canal. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a, tu as plus ou moins des handicaps qui te révèlent ou des facilités qui te révèlent et après, qui sont utilisés à bon ou mauvais escient. Parce que les gens avec le succès ou le pouvoir peuvent devenir complètement fous ou complètement apaisés.
Oui. Ça, c'est sûr.
Moi, j'ai deux exemples et je donnerai les noms à la fin.
Oui. Mais c'est ça que j'aimerais depuis le début. Parce qu'en fait, on pourrait bitcher un peu quand même, faire une liste de tous les gens.
Non, mais alors,
tous les gens qu'on déteste quand même, parce qu'il y en a.
Il y a des gros connards. Hein.
Mais grave.
Bernard Vaudran, je les ai cités dans mon
Michel
spectacle.
Michel Saniec.
Simon Pellandier. Dans mon spectacle, il y est.
Jean-Michel Tapiès.
Paul Fesny, c'est la pire des salopes. Hein. Vous connaissez Paul Fesny?
Sylvain Jean Giraud, c'est une pute, ce mec. Sur
et Cathy Lachoun.
Cathy Lachoun.
Vous avez tourné avec elle?
Oh non. Dégueulasse.
Alors elle.
Elle pue.
Elle pue, ouais, mais ça marche. Elle marche. Donc en fait, elle a tous
les. Elle cartonne.
Elle cartonne, donc forcément, faut fermer sa gueule si t'es avec Lachoun.
Alors, puisqu'on a la chance d'être avec une gonzesse, on pourrait quand même parler du comédien qui donc a une scène soit de lit, soit de baiser à faire avec la comédienne.
Allez-y,
prenez-le.
Au début. Il démarre en disant « Ne t'inquiète pas, c'est hyper cool, ça va très très bien se passer entre nous,
voilà.
Je sais m'y prendre, etc. Ouais. » Et on sent très vite qu'il a des gestes très légèrement déplacés.
Et qu'il a surtout une érection.
Il bande un peu.
C'est très gênant.
Et le baiser même. Qui ne nécessitait pas forcément une langue.
Et
on sent la langue arriver
bande...
à la première prise, etc.
Non,
on se dit
«
Mais
terrible.
Zut !» Ouais. Zut, là, comment se débrouiller du problème.
Non, mais c'est vrai, très bonne question, eh ben
oui.
Stéphane.
Oui.
C'est l'enfer.
Mais c'est l'enfer.
Je dis ça parce que j'en ai parlé souvent avec des comédiennes qui ont quand même sont très nombreuses à avoir
surtout
vécu le problème.
Surtout que c'est un mec dégueulasse que tu ne peux pas saquer.
Mais grave,
oui.
Mais évidemment. Et surtout que le mec, au début, a dit « Ne t'inquiète pas, ça va très bien se passer
oui. ».
Et pour lui. Mais pour toi, ça se passe très très mal.
Très.
Et on ne sait pas très bien comment, à un moment, lui dire...
parce que là, on en rigole, mais en fait...
Alors, c'est... autant tu peux lui dire ne mets pas ta langue, que bon, l'érection,
que
tu peux pas faire grand-chose.
Est-ce que tu pourrais ne pas bander, s'il te plaît? Ah non, ça c'est compliqué.
Oui, on doit subir ça, nous.
Ouais. Moi, j'ai jamais été emmerdé par une gonzesse qui me... Non, elle me... Ouais. Non. D'abord, moi, j'ai pas les rôles qu'emballent les meufs. Toi, t'emballes beaucoup les gonzesses à l'image, toi, Fred. Un peu, quand même.
Un peu, mais pas beaucoup.
Moi, j'emballe pas. On m'a jamais donné des rôles d'emballeur.
Alors, au début, justement, t'es plus timide. Non, mais justement, après, tu connais les gens, donc tu fais attention de, justement, ne pas être...
Moi,
il y a d'autres comédiens qui arrivent à... à se scotcher sexe pour être... tu vois, moi, autant faire la vanne de cul nu, je l'ai fait. T'as le cul nu en fin de plan. C'est rigolo, tu te marches. C'est derrière, machin. Mais après, moi, j'ai obligé d'avoir d'avoir un, voilà, une coquille, un truc qui protège quand même, pour histoire de respecter la personne. Enfin, moi, je trouve que c'est très, très bizarre d'être avec quelqu'un.
Non, c'est hyper embarrassant.
Et le cinéma, c'est pas la vie.
Mais non.
Enfin, les films, c'est pas la vie.
Allô.
C'est justement, on fait croire que...
Ah oui.
Donc, c'est pas...
Il y a beaucoup d'acteurs qui oublient ça. Hein. Ouais. C'est que tout d'un coup, ils vivent le truc à fond. On est non, on vit le truc.
Ouais, on est dedans.
Ben non, on joue jouer la comédie. La comédie comme quand on est gamin, quoi. Donc on fait tout semblant.
C'est quand même un gros.
Ça a l'air pour de vrai, mais on joue.
Alors en effet, les acteurs studio mal digérés.
Ah ouais.
L'acteur studio mal digéré, on fait tout comme dans la vraie vie.
On vit le truc.
Justement, mais là je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que. Si normalement, après, tu peux avoir chacun a ses problèmes, ses trucs de l'adolescence, etc., machin, mais si normalement tu es un peu équilibré, tu n'as pas besoin de te trimballer la teub à l'air au combo, quoi. Tu vois, près de le combo, c'est là où on enregistre les scènes et on va voir le réalisateur près de la tête de la réalisatrice ou de l'actrice.
On joue la comédie, donc on joue. C'est pour jouer, c'est pour se marrer, quoi.
Donc
aussi.
On fait semblant.
Au départ.
On demandera les noms à la fin, hein.
Ouais. Mais en effet, certains voient ça un petit peu différemment.
Il n'y a pas de méthode, il y a des méthodes.
Bien sûr.
Non, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de méthode, chacun fait. Ouais.
Et on a juste une qu'on devrait imposer, c'est arrêter de faire chier les autres.
C'est ça.
Ah oui, voilà, merci là. Stéphane.
Après, tu fais ce que tu veux du moment où tu ne fais pas chier.
Merde, j'aimerais bien couper cet œuf mollet.
Entièrement,
mais... Non.
Gobe-le comme ça.
Non.
Si, entièrement.
C'est génial l'œuf mollet, hein.
Prends
l'œuf mollet. Hein.
Moi, j'aime bien l'expression utilisée sans arrêt maintenant. C'est un œuf qui raconte une histoire.
Tout
raconte une histoire.
On avait fait des sketchs avec Stéphane à l'époque où on produisait des trucs sur Internet.
Ah oui, on a fait.
Ça s'appelle la cuisine sale. Il faisait que des recettes où il cuisinait comme un dégueulasse avec sa clope qui tombait.
Ah, c'est bon ça.
Et qu'est-ce que ça faisait du bien.
C'est drôle.
On aurait bien aimé en faire plus.
Mais oui,
c'est drôle.
Vrai. C'était cool.
Mais c'est pas fini, on l'a pas dit au dernier mot. Bah, parce que la route est longue, attention.
On s'amusait. Parce que...
Pareil d'ailleurs, tiens. La route est longue. Le mec qui rebondit sur toi. Je suis au taquet aujourd'hui, je suis pas endormi. On voit que j'ai bu qu'une bouteille de vin avant de venir. Et du coup, la route est longue. On est d'accord qu'à un moment donné, dans ce métier, c'est quoi la phrase de dis bonjour à tout le monde quand tu montes, parce que c'est quoi?
Parce que quand tu vas redescendre, ils s'en souviendront. Mais si tu leur as pas dit bonjour, tout le monde redescend.
Tout le monde redescend un jour ou l'autre.
Ben oui.
Et ça, c'est quand même le maître mot que les nouveaux arrivants... Oublie.
Et ce qui est drôle dans ce métier aussi, c'est quand ça monte, ça redescend, ça remonte, ça redescend, ils font le yo-yo. Hein. C'est pas mal d'être pas trop bas. C'est Annie Dupéré qui m'avait dit ça une fois, Murat, c'est quand même, ce métier, c'est quand même un voyage, c'est quand même un petit peu plus agréable de le faire en première classe.
Ouais, mais je pense que quand t'as été en première,
c'est
très tôt,
vrai.
Et que tu te retrouves en...
Oui, c'est dur. C'est dur.
Il vaut mieux être toujours en seconde.
Si on m'avait dit, Boukrieff, la sortie du film qu'on avait fait ensemble, qui n'avait pas eu les résultats escomptés pour un polar, tu vois. Et il a dit, mais tu sais, c'est peut-être une très bonne chose que c'est ta première fois que tu as un rôle justement dramatique, entre guillemets. Et c'est très bien finalement que ça ne marche pas.
Mais
le mec,
raison,
il dit, la lucidité, la soirée chiffre, à minuit, à l'échelle de toute la France, on sait que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui tu trinquais. Parce qu'il y a ça aussi. Tu étais en train de faire. Tu étais en train de boire des coupes de champagne.
Ouais.
Voilà, sur la terrasse de Gaumont qui distribuait le film. Et tu as des gens de l'entourage, toujours plein de gens à une sortie de film. Voilà, et qui te tournent le dos. En 20 minutes, ils ne te parlent plus, ces gens-là. En disant, bon, bah, c'est terminé, lui. Lui, en fait, laisse tomber. Tu vois, et tu le sens.
Ouais.
Et toi, tu dis, putain, merde. Moi, heureusement, et heureusement, coup, la chance que j'avais. Non, mais la chance que j'avais, c'est que j'étais dans mon petit cocon de Canal+.
Bien sûr.
Heureusement, à faire mes petits sketchs et mes petites blagues avec
mes potes. Non, mais ça peut rendre fou, hein.
Et ben, il m'avait dit
fragile,
ça. Ben non, mais c'est normal.
Bah oui.
T'as des gens qui te disent, putain, qu'est-ce que j'ai aimé.
Mais
tu les as vus les mêmes à Cannes avant, 6 mois avant, ils étaient à Cannes. À te dire, des déjeuners, c'est super, machin, c'est bien. Et là, et Nicolas Boukrieff, à ce moment-là, t'imagines la lucidité, la force du gars, te dit, bah, franchement, c'est bien, finalement. Parce que si ça avait cartonné, ça aurait pu être peut-être dangereux pour toi, pour la suite. Ouais. Et heureusement.
Et ben, je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'âge auquel ça t'arrive. Je pense que trop de succès trop jeune, c'est dévastateur.
Ouais.
Ça, tu pètes les plombs, quoi. Vraiment.
Ouais.
Non, mais tu vois, t'as des très jeunes, 16, 17, 18, qui sont fragiles, quoi, forcément.
Il faut mieux que tu sois très bien entouré.
Ah ouais.
Et
que tu sois dans la vie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Enfin, tu vois, quand t'as déjà une famille ou des enfants et tout, ça te cadre un peu. Les acteurs seuls n'ont pas de famille, pas d'enfants, ou t'as pas de trucs de quotidien.
Au-dessus d'une boîte de nuit.
Non, mais c'est dur,
premier
quoi.
Étage.
Tu peux vite péter les plombs, quoi.
Mais péter les plombs est grave.
Ouais.
Non, mais c'est vrai que c'est marrant, parce que regarde, par exemple, tu t'imagines... Sans donner de nom de gens, mais je pense à un peu c'est dommage.
Tu vas les donner les noms, hein. Vraiment,
c'est dommage,
hein,
depuis le début. Ouais. On n'est vraiment pas loin depuis le début.
On veut les noms, maintenant.
Je me dis, imaginons, je sais pas, des gens qui...
Excusez-moi, j'ai mal à l'œil.
Ah, mais c'est vrai.
J'ai une petite goutte à mettre dans mon œil, tout va bien.
Mais mets un bulot, par contre, dans ton œil,
je vais mettre un bulot dans mon œil, peut-être.
Est-ce qu'il reste de l'eau, d'ailleurs, à ce propos?
Vous, laquelle?
Non, est-ce qu'il resterait de l'eau de... Mais merde.
Ah, voilà, ça y est.
Alors toi, t'étais confiné où, mon petit chien?
Il nous a pas répondu.
À Paris
hein.
Ou il encore, a
pas dans un confit de canard.
Non, mais t'étais
il
où
il n'a pas
à Paris,
souhaité répondre.
Encore.
J'étais à Paris, pour certaines ouais. personnes.
Oh.
Après, moi, comme j'ai un jet privé, tu sais, tu...
Et
bon, je peux faire
l'aller-retour entre la Corse
discrètement.
Non, j'ai une semaine Paris, une semaine en Corse avec mon jet. Qui est, voilà.
D'accord.
Ça, c'est... Après, c'est... C'est une vie différente.
C'est une
maison
en Corse ?
Oui, on peut dire que j'ai même un château. Hein. Je parle d'un château par rapport à mon père qui était marquis. Le marquis d'ailleurs.
Il y a énormément de châteaux en Corse. Il y a les bords de Loire et la Corse hein, pour ces châteaux. Les châteaux Renaissance, hein, évidemment. Ouais,
et donc, qu'est-ce qu'on pourrait raconter encore sur nos conneries de... C'est un galabru qui disait bah, tiens, j'ai fait ce film-là pour payer la troisième pension alimentaire de. Ou... ou machin, dont je ne citerai pas le nom, qui a travaillé avec un pote à moi, un ami même, et qui avait fait un acteur de cette génération-là, qui a dit « J'ai fait ce truc-là pour payer ma fosse sceptique, ma nouvelle fosse sceptique. » Eh bien oui, mais c'est ça aussi notre métier.
Ah ben évidemment.
Ça peut être, t'es pas obligé de faire un truc parce que t'adores ton projet. Tu peux aussi faire le projet parce que tu dois, t'as des trucs à payer. Parce que tu as envie de te confronter à un truc que tu n'aurais pas fait avant. Enfin, je sais pas, pour plein de raisons. Parce que tu t'en fous complètement et puis c'est pas grave, tu vois.
Non, mais
et
le
parce
vrai que... luxe, ce serait pour un acteur... Enfin, moi, je le vois comme ça. Le vrai luxe, pour moi, ce serait de ne pouvoir faire que des projets que j'aime.
Non, mais ça, ça arrive à qui à... Voilà. DiCaprio, mais... peut-être.
Mais il y a beaucoup d'acteurs à qui ça arrive, quand même.
Non, mais pas
c'est
beaucoup
pas...
d'acteurs. Hein,
en tout cas, c'est pas mon cas. Et très souvent, je vois en me disant, bon, bah, c'est combien de jours, ça va pouvoir payer... L'école de mes enfants, leurs vacances, machin, même si le truc est naze. Non, mais c'est horrible.
Des dettes.
Bah ouais.
Parce que, rien branlé pendant
6 mois,
je me suis un peu mis dans le rouge.
Bon, bah c'est ça. Mais j'adorerais faire que des projets auxquels je crois et que j'adore. Bon. Ouais. Mais souvent, tu fais des très jolies rencontres et ça devient quelque chose.
Ouais.
Tu pensais au départ que ça allait être pourri, que tu le faisais pour des mauvaises raisons.
Et au final, tu vas retrouver la personne quelques années plus tard.
On est étonné par les résultats, dans les deux sens. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop où on met les pieds avant les choses. On dit bon, on va voir. Ah, a priori, ça doit être sympa. Oh, il y a qui dedans? Là, on regarde sur les plans de travail. Il y a qui tourne. Oh, il y a machin, ça va être super. Oh, il y a truc, c'est super. Finalement, déception.
Oui, parce qu'il y a un truc qui est marrant. Surpris, hein. D'ailleurs, sur les tournages qui n'existaient pas du tout dans la vie réelle, je trouve, des autres métiers, parce qu'on a tous fait d'autres métiers aussi. Mais c'est que sur les tournages, déjà, t'es hors du temps. T'as une scène, ben voilà, t'es là, t'es dans la rue, tu vas être la nuit, tu vas être sur le toit d'un immeuble, sur un bateau, à un moment donné, un instant T.
Des décors, on n'aurait jamais mis les pieds avant.
Voilà, t'aurais jamais mis les pieds dans cet endroit avant, voilà. Et sur les pauses, sur les moments off, le moment où tu ne tournes pas, tu vas te retrouver avec des gens que t'apprécies ou pas plus que ça, mais... ou que t'aimes bien, mais bref, tes compagnons de route, compagnons hommes ou femmes, et en fait, ce tournage fait que comme t'attends beaucoup, t'as beaucoup de temps d'attente, bizarrement, ce qui est drôle, c'est que ça crée un truc de... De toute façon, c'est peut-être des gens que tu reverras jamais. Et c'est marrant comment tu peux aussi te confier des problèmes même à des gens à qui tu parlerais jamais. Intime, ouais. C'est-à-dire que tu irais peut-être chez un psy raconter des trucs des fois. On a cette chance-là, nous. C'est qu'on peut être avec des gens qu'on ne reverra peut-être jamais. Et à un moment donné, tu vas raconter un problème ou pas de ta vie, mais on va te donner une petite solution ou un petit... En tout cas, un espace pour parler que tu n'aurais jamais eu ailleurs. Mmh. Sur ces parce temps d'attente du cinéma, de la télé ou du théâtre. Hein, ouais. Et en fait, du métier de comédien.
C'est passionnant.
Donc on finit sur une citation, non? Après, on arrache nos micros.
Moi, j'ai fini sur une citation de Bob Marley.
C'est pas mal. Hein?
Je voulais,
moi, c'est ça que je préfère. Voilà.
Redites-la, Alika. War.
Alors, en anglais, ça, c'est quoi?
Until there's no longer citizens of first class and second class of any nation, there will be war.
Voilà. Ce qui veut dire en français.
Tant qu'il y aura des citoyens en première classe et d'autres qui voyageront en seconde classe, il y aura la guerre.
Stéphane.
C'est pas mal l'idée.
Moi, je pourrais, c'est Bob Marley, tu cites qui, toi?
Moi, j'aime bien ta citation, ouais. Parce que je trouverais une citation.
Il y avait quand même Téléprix qui croyait prendre, de Bernard Janvien. Il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Qui vole un œuf, vole un bœuf.
Cécile Roubagnol.
Non, j'ai pas, ça me vient pas, c'est pas grave.
Bah, Toubi, Arnaud Toubi, ah bah, un truc comme ça.
Toubi, hein, Toubi, Arnaud Toubi.
On peut enlever nos micros.
En mode avion est une création originale Engel, présentée par Fred Testo. Production Engel et Cocojet. Ingénieur du son, Paul Fourure. Production Raphaël Fruchard et Clémence Fries. Réalisation Raphaël Fruchard. Coordination de production, Alix Pénichon. Abonnez-vous à votre podcast En mode avion sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.